Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 13e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la 4e de cette année universitaire. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, que vous soyez familier de cet espace de réflexion et de débat, ou que vous veniez pour la première fois, sans avoir craint de braver le froid. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous une très bonne année 2010 et de nous souhaiter d'être ensemble attentifs à ce qui bouge dans notre société, dans notre monde, et d'y repérer ce que le Concile Vatican II appelait les signes des temps. C'est bien l'esprit de ces soirées d'éthique publique, chaque premier mardi de chaque mois, soirée d'échange autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie sociale, politique, professionnelle, internationale, ecclésiale. L'objectif est de pouvoir essayer de nous donner les uns et les autres, sans prétention, un certain nombre d'éléments de compréhension, d'analyse de certaines situations, mais aussi de pouvoir repérer peut-être un certain nombre de critères ou de pistes qui nous permettent de mieux nous situer dans les différentes situations de notre vie, des pistes aussi pour continuer notre réflexion personnelle et avec d'autres. Le point de départ, c'est donc la parole d'une ou de deux personnes qui vont partager simplement en confiance comment ils perçoivent les enjeux de cette réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Dans les mois qui viennent, nous aurons l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets, par exemple de revenir sur les leçons qui ont été ou non tirées de la crise financière d'il y a un an. Nous nous intéresserons aussi à l'état de la justice dans notre pays. Mais notre horizon s'élargira aussi à l'Europe et à ce qu'il faut attendre de sa nouvelle configuration institutionnelle. Ainsi qu'à la Chine, faut-il avoir peur de la Chine dans le cadre de l'année Ricci du nom de ce missionnaire jésuite du XVIe siècle qui nous a ouvert les portes de la Chine et dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la mort. J'en profite pour annoncer l'inauguration de cette année Ricci le samedi 30 janvier ici au Centre Sèvres à partir de 14h30 avec notamment exposition, projection de documentaires, démonstration de la version numérique du grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise. Chacun regarde si son portable... Vous êtes tous donc cordialement invités. Et ça doit être le mien. La communication est parfois difficile. Voilà, donc retenez bien cette date du samedi 30 janvier pour l'ouverture de l'année Ricci. Mais ce soir, nous allons nous intéresser à un autre sujet qui demande pas moins de finesse que celle de Matteo Ricci abordant la terre de Chine. Je veux parler de la communication de l'Église et plus largement donc de son rapport aussi au monde. C'est un sujet qui nous touche, bien évidemment, tous et qui parfois peut aussi nous attrister. Quand, par exemple, nous avons le sentiment que ce que dit l'Église n'est pas compris, n'est pas retenu ou est déformé, ou bien, à l'inverse, quand nous nous interrogeons sur l'opportunité de telles déclarations, de telles décisions, demandant parfois si on a toujours mesuré les effets de telle ou telle prise de parole. Et on se souvient, l'an passé, à peu près dans les mêmes époques, des débats et polémiques qui ont entouré tel ou tel événement douloureux, événements largement médiatisés. Alors en fait, on peut se demander si l'Église est à l'aise dans le monde de l'information et de la communication. D'où cette soirée dont le titre est double, l'Église sait-elle communiquer, l'Église doit-elle communiquer? Nous sentons bien qu'il y a des niveaux de réponses différents et que ces réponses dépassent le simple registre des méthodes de communication. Pour nous aider à avancer dans notre réflexion ce soir, eh bien, je suis heureux d'accueillir en votre nom deux personnes qui sont immergées en permanence dans ce monde de la communication et qui connaissent bien aussi l'Église. Tout d'abord, Isabelle de Golmin, qui est journaliste. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous avez été d'abord, je crois, journaliste économique aux Échos et à la Tribune, avant de passer au domaine plus politique, à la Croix. Et puis, depuis 1997, vous suivez pour ce même journal les informations religieuses. Et c'est dans ce cadre que vous avez été pendant plusieurs années l'envoyé spécial permanent de la Croix à Rome. Vous y êtes arrivé, je crois, à peu près au moment où débutait le pontificat de Benoît XVI. Vous connaissez donc bien les arcanes du Vatican et vous avez d'ailleurs publié en 2008 un ouvrage aux éditions Bayard, Benoît XVI, le pape incompris. Depuis juin dernier, à peu près, vous avez retrouvé Paris, ou plutôt Montrouge, où se trouve la rédaction de La Croix, et vous avez pris la responsabilité du service religion du quotidien. Merci donc d'être là ce soir, Isabelle, et de nous faire part de votre expérience et de votre analyse. À ma gauche, Monseigneur Bernard Potvin, vous êtes secrétaire général adjoint et porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et je me dis que certains jours, ça ne doit pas être un boulot si facile que ça. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, dans lequel vous avez occupé différentes responsabilités. Vous avez commencé votre ministère en quartier populaire à Roubaix, puis vous vous êtes notamment occupé de la formation des séminaristes. Vous serez d'ailleurs nommé supérieur du séminaire de Lille, avant de rejoindre quelques années plus tard l'Université catholique de Lille, dont vous deviendriez le vice-recteur, tout en étant vicaire épiscopal à la formation. Pour autant, le monde des médias et de la communication ne vous est pas du tout étranger, inconnu, c'est même un centre d'intérêt que vous avez depuis longtemps, puisqu'étant étudiant, avant même d'entrer au séminaire, après des études en sciences économiques, vous allez faire l'école supérieure de journalisme de Lille, un établissement que vous retrouverez d'ailleurs plus tard comme enseignant du fait religieux et membre du conseil pédagogique de cette école. Vous avez été aussi, durant de nombreuses années, président national de la presse locale chrétienne et directeur de la revue Prêtre diocésain. On comprend bien dès lors que la Conférence des évêques ait souhaité vous confier la tâche délicate de porte-parole et nous, ce soir, nous nous réjouissons beaucoup de votre présence parmi nous. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vais maintenant laisser la parole à nos invités. Autour de ces deux questions, l'Église sait-elle communiquer? L'Église doit-elle communiquer? Pour une intervention de 20 minutes chacun, comme nous en avons l'habitude, avant de prendre le temps du débat et de l'échange entre nous, nous terminerons, et en général nous essayons d'être à l'heure, à 20h45. Voilà. Je vais d'abord laisser la parole à Isabelle de Golemin, qui pourra partir aussi de son expérience de cette question.
Merci et merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu. Je vais tout de suite préciser que je vais parler comme journaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas une théoricienne de la communication, je n'ai pas non plus une science théologique de ce point de vue, donc moi vraiment je vais vous parler comme une praticienne. Et donc je vais plutôt vous... J'ai pas de recette, j'ai pas de solution, plutôt une pratique et puis du coup un certain nombre de questions. Bon, si on répond à la première question, l'Église sait-elle communiquer? Je vais pas vous dire oui, parce que personne me croira, donc je dirais plutôt non. Je crois qu'il faut pas manier la langue de bois. Non, l'Église aujourd'hui n'arrive plus à communiquer. Et pour moi, ce qui m'a beaucoup frappé en rentrant en France cet été, c'est finalement l'écart qui est ressenti avec beaucoup de douleur par nous, par vous, par les catholiques, entre ceux qu'ils vivent dans leur paroisse, dans leur communauté, dans leur lieu d'église, et puis ce que les médias transmettent. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est que finalement, ce que vous vivez souvent dans l'église, à la base, il se passe quand même des choses assez formidables, on le sait tous, et l'image qu'on nous renvoie de nous-mêmes, par contre, elle est complètement désastreuse. Et voilà, c'est cet écart-là qui fait problème, et c'est cet écart-là sur lequel moi je trouve qu'il faut qu'on travaille. Second peut-être préalable, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par communication. C'est pas si évident que ça, parce que justement il y a eu un débat un petit peu sur le même thème sur KTO en décembre sur ce sujet, et c'est vrai qu'il y a un des intervenants qui a dit bah voilà, pour moi la communication c'est aller dans la rue sur les parvis et distribuer des petits Jésus pour rappeler que c'est Noël, que c'est une fête chrétienne, etc. Alors non, ça c'est de l'évangélisation. Et souvent on confond un peu tout, donc faut vraiment bien savoir de quoi on parle. Là, pour moi, en tout cas moi, ce dont je peux parler, c'est plus de la communication de l'institution Église qui dit au monde qu'est-ce que l'Église catholique, qu'est-ce que le message catholique, qu'est-ce qu'elle a à nous dire au monde, à la société. Mais on n'est pas dans une problématique d'évangélisation, du moins a priori. Alors peut-être après, on y viendra à la fin, mais ça peut toucher l'évangélisation, mais en tout cas, c'est pas ça. Pour moi, pourquoi est-ce que je dis non? Je dirais d'abord parce qu'il y a un problème de l'institution. Et ça, je crois qu'il faut pas. Enfin, moi, c'est. Faut pas qu'on se le cache. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, la communication de l'Église, c'est essentiellement pour les médias, c'est essentiellement le pape. En fait, on est en train de, à mon avis, de vivre les conséquences du pontificat de Jean-Paul II. Qui a quand même beaucoup contribué à mettre sur sa personne et sur ses gestes et sur sa geste presque la communication de l'Église, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement polarisé sur le pape. Et c'est vrai qu'il suffit que le pape fasse quelque chose pour que ça soit su partout, et en fait on va se déterminer par rapport au pape. Le pape a dit ça, le pape a fait ça, le pape. Oui, mais l'Église c'est pas que le pape. Mais le problème, c'est que ça devient un peu ça, y compris pour les catholiques d'ailleurs. Ah, le pape devrait dire ça. Moi, je dis, mais attendez, le pape, il fait pas tout ici. Il y a aussi les catholiques qui devraient dire des choses. Donc voilà, je trouve que c'est un des premiers problèmes, c'est cette polarisation autour du pape et du Vatican, d'une Église qui est normalement universelle. Ça amène aussi le problème pour les conférences épiscopales, mais ça, le père Potvin en parlera beaucoup mieux que moi, c'est que du coup. Eux, ils sont un peu toujours derrière à essayer d'expliquer qu'est-ce que le pape a dit. Bon, le pape a dit ça, bon, ben voilà, en fait, il a voulu dire ça, etc. Oui, et alors du coup, quelle est à eux leur marge de manœuvre, leur marge de liberté, leur marge d'autonomie par rapport au message du pape? C'est un peu le problème. On a quand même aujourd'hui une communication qui est très biaisée par ce problème-là. Alors, l'autre problème, c'est que la structure de communication du pape du Vatican, que pour le coup, effectivement, je connais bien, n'est absolument pas à la hauteur d'un enjeu mondial. Si on dit que la communication de l'Église c'est le pape, bon ben on y met les moyens. C'est absolument pas le cas. Surtout aujourd'hui avec un pape qui effectivement n'a pas fait de la communication sa priorité, c'est tout à fait clair. De la communication au sens de communication institutionnelle. En fait, on fantasme toujours beaucoup sur le Vatican. C'est assez peu de personnes, le Vatican. C'est peut-être 4000 fonctionnaires. C'est vraiment très peu, tout compris. La structure de communication, à la tête de la structure de communication, il y a un jésuite, le père Lombardi, qui fait ce qu'il peut, mais qui est par ailleurs aussi chargé de Radio Vatican, et puis de gérer aussi tout ce qui est télévision vaticane, donc qui est un homme surchargé, qui est un homme relativement âgé aujourd'hui, qui est une toute petite équipe. Ils sont 18, m'a-t-il dit, mais en comptant tout le monde, enfin c'est vraiment rien, c'est complètement ridicule quand on voit par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière. Il y a une absence totale de coordination avec le reste des organismes, des bureaux, des dicastères du Vatican, et ça le père Lombardi est le premier à le dire. Il y a pas du tout de pédagogie de la communication, donc tout le monde va un petit peu dans tous les coins, et du coup il y a pas de vraie stratégie. Donc ça c'est un problème de gouvernement. Moi je vais vous donner un exemple tout à fait récent. On a eu donc en décembre, on nous a dit bah tiens, aujourd'hui le pape va publier son message pour la journée de la paix qui est le 1er janvier, et il le publie toujours quelques semaines avant. Donc quand on est journaliste, on a droit à avoir ce message un petit peu avant le moment de sa publication. On l'a ce qu'on appelle nous en off à 9h du matin, et puis le message est rendu public et on peut le publier à partir de midi. Donc en gros on a 3 heures pour le lire. Bon, on découvre ce message, on nous a absolument pas dit sur quoi ça portait, etc. Moi, je le lis, c'était vraiment un message, mais vraiment un très beau message, très intéressant sur l'écologie. C'était pour la première fois la synthèse de ce que pouvait penser aujourd'hui, ce qu'on pouvait penser aujourd'hui au Vatican sur l'écologie. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement complet, qui allait assez loin dans un certain nombre de domaines. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, formidable, voilà quelque chose qu'il faut mettre en valeur. En plus on était en plein sommet de Copenhague, super communication. Sauf qu'évidemment personne n'avait pensé qu'on était en plein sommet de Copenhague et qu'il fallait prévenir les journalistes avant pour leur dire, il va y avoir un message qui en quelque sorte... La contribution du pape à Copenhague. Enfin bon, ça c'est nous qui, à la croix, on est gentils, donc on essaye d'arranger un peu les choses. Et voilà qu'à midi, on arrive, pareil, de manière complètement inattendue, l'annonce sur le site internet du Vatican, et donc on prévient tous les vaticanistes, notre correspondant aujourd'hui qui est Frédéric Mounier, le pape sort un motu proprio le même jour. On se dit, oulala, zut, un motu proprio, c'est quoi? Parce que maintenant, quand on voit motu proprio, on a très peur. Donc, c'était un motu proprio sur le diaconat. Un texte qui arrive en latin, moi je suis incapable de vous traduire du latin, sans aucune explication, un truc de droit canonique extrêmement compliqué. Voilà, on vous livre ça sur le même site, le même jour que le message pour la paix, le père Lombardi qui vous dit, bah oui, c'est bien dommage, personne m'avait dit, d'ailleurs, personne m'a expliqué ce texte, bon, bah voilà, c'est ça. Donc là, vous avez typiquement une journée de communication du Vatican qui est une journée de dysfonctionnement de communication. Et ça, c'est vraiment souvent, donc je pense que la machine du Vatican aujourd'hui au niveau de la communication ne marche pas, et ça, il faut pas, enfin moi, je pense qu'il faut le dire, tout simplement. Ça, c'est le problème de l'institution, qui est pour moi le problème vraiment du Vatican aujourd'hui. Après, on parlera, je pense, avec le père Podin, plus de l'aspect local. Après, il y a aussi le problème des médias. C'est vrai qu'on entend beaucoup dans les milieux de l'Église, « Ah, les médias, c'est horrible, de toute façon, ils sont contre nous, ils sont pleins de mauvaise volonté, ils veulent nous assassiner, etc. » Bon, moi, je pense qu'il faut pas être totalement naïf, mais je crois que c'est pas le problème. Je pense dans les médias, il y a plein de gens qui sont pleins de bonne volonté par rapport aux églises en général, ou en tout cas qui n'ont pas de mauvaise volonté. Le problème n'est pas ça. Il y a peut-être deux choses. D'une part, il y a le problème d'aujourd'hui des médias qui fonctionnent sur un rythme extrêmement rapide, qui n'est pas le rythme de l'Église. Alors, c'est vrai qu'au Vatican, ils n'arrêtent pas de nous dire « Oh, mais c'est pas grave, l'Église, on est là depuis 2000 ans, de toute façon, nous... » Non, mais c'est leur grande phrase. « Le temps de l'Église n'est pas le temps des médias. » Bon, une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, parce que c'est peut-être une évidence. Mais bon, après, si on veut quand même être dans notre monde, il faut tenir compte de ça. De ce point de vue-là, je trouve que le très bon exemple, ça a été Ratisbonne, qui a montré l'augmentation extrêmement rapide aujourd'hui de l'accélération inouïe du système médiatique. Et le pape n'est pas le seul qui est aujourd'hui victime de ça. Je veux dire, tout le monde est victime de ça. De même que vous avez un homme politique qui va s'exprimer en off dans une réunion publique, s'est pris comme ça par un petit téléphone mobile, s'est mis sur Internet tout de suite et la planète entière est au courant. Et ben, Ratisbonne, ça a été un peu ça. Moi, ça m'a beaucoup surpris parce que je dois avouer que j'étais complètement néophyte. Vous avez le pape qui fait un discours devant l'université de docteur allemand, de philosophe, de théologie allemand, qui l'écoute poliment, qui applaudit, tout ça est formidable. Et puis, 4 heures après, tout ça parce qu'on était le lendemain de l'anniversaire des 5 ans du 11 septembre, vous avez les agences américaines qui se sont énervées sur une petite phrase du pape, qui ont sorti ça parce que ça faisait 5 jours qu'ils n'arrivaient pas à intéresser beaucoup leur bureau à New York, ou à Londres sur ce voyage du pape en Allemagne, qui ont sorti ça. Et du coup, cette phrase est devenue l'élément principal de ce que le pape avait dit. C'est vrai que c'est une phrase malencontreuse, c'est vrai qu'il n'avait pas à la dire, etc., etc. Ça, il n'y a pas de souci. Ceci dit, en 5 heures, ça avait complètement basculé, parce que le truc était parti sur Internet aux États-Unis, était revenu après en Asie, dans le monde arabe, etc. Pouf, ça commençait comme une boule de neige. Et on a vu revenir un espèce de truc qui n'avait plus du tout de rapport avec ce que nous, on avait vécu en réalité. Vous avez l'événement, la réalité de l'événement, le discours de Ratisbonne, là où il a été vécu à Ratisbonne dans une grande tranquillité et un grand calme, paisible. Et puis, vous avez ensuite un truc qui vous revient avec le monde est à feu et à sang à cause de la phrase du pape, les musulmans protestent, le roi du Maroc rappelle son ambassadeur, et puis il y a eu des manifestations. Il y a une religieuse qui a été tuée, il faut pas l'oublier aussi avec cette histoire. Donc voilà, c'est quand même une rapidité d'information. Et par rapport à ça, c'est vrai que le pape a pas réagi assez vite, mais c'est compliqué quand même. Parce qu'on voit bien qu'avec Internet, les circuits d'information vont très 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 vite et sont pas du tout maîtrisables. Et avec effectivement, en plus sur ce sujet-là, une grande influence de la sphère anglo-saxonne. Et donc d'un prisme anglo-saxon qui là était effectivement, ils étaient dans leurs histoires attentats, dialogues islamo-chrétiens, etc. C'était pas le propos du discours. C'était vraiment pas le propos du discours, même s'il y avait de fait cet exemple malheureux. Mais c'était vraiment pas le propos du discours. Donc voilà, on est là dans un système qui est effectivement très compliqué, avec lequel il faut faire. Autre problème des médias, j'ai dit que les médias n'avaient pas de mauvaise volonté, me semble-t-il. Peut-être que je suis naïve, hein. Moi, je trouve qu'il faut pas dire que les médias sont mauvais, que les journalistes veulent manger du curé tous les jours, etc. Par contre, il y a une très grande ignorance, et ça, c'est vrai, et ça, il faut faire avec. Et ça, il faut bien se rendre compte que plus personne, là, vous allez devant le bon marché, vous demandez qu'est-ce qu'un synode, vous demandez qu'est-ce qu'un évêque, vous demandez qu'est-ce qu'une excommunication, personne ne va vous répondre. Vous allez parler de Pie XII, de l'héroïcité des vertus. Alors du coup, pouf, ça devient en canonisme Pie XII. Voilà, parce que personne n'y comprend rien. Donc on est dans un monde de très grande ignorance, mais immense. J'aime citer cet exemple, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est au moment de la venue du pape en France, de Benoît XVI en France, il y avait donc la messe aux Invalides, et c'est vrai que les radios, enfin les journalistes ont été très intéressés par ce voyage, il y a vraiment une bonne couverture médiatique. Donc il y a une radio du service public qui avait mis des reporters un peu partout aux Invalides pour suivre la messe au minute par minute, enfin c'était formidable. Puis tout à coup il y en a un qui prend la parole, qui dit c'est formidable, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, inattendu, tout le monde se serre la main, c'est un grand geste de solidarité. Bon, c'était le signe de paix, voilà. Alors évidemment les journalistes italiens qui étaient là, qui ont entendu ça, ils ont beaucoup rigolé. Alors ils ont fait plein d'articles après en Italie sur le degré d'ignorance des Français sur la culture religieuse. Bon, ce qui est vrai, je pense que en Europe on est vraiment les derniers de classe, mais je pense que tout le monde va y venir à ce degré d'ignorance. C'est vrai qu'il y a eu des sondages qui ont été faits sur la culture biblique des Européens. C'est vrai que les Français, c'est pas brillant. En fait, c'est pas brillant et c'est brillant. C'est très brillant chez les catholiques pratiquants, qui sont très 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 peu. Mais c'est beaucoup plus brillant. Le catholique pratiquant français est beaucoup plus brillant que le catholique pratiquant italien. Par contre, le français moyen, c'est assez effrayant. Donc voilà, il y a une très grande ignorance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je sais pas ce qu'on fait. Est-ce que l'Église continue de communiquer en latin ? Est-ce qu'elle continue à dire qu'elle fait un motu proprio ? C'est quoi un motu proprio ? Alors, c'est compliqué, parce qu'on peut dire aussi, bah oui, bah voilà, c'est le langage de l'Église, il y a aussi le langage du sport, il y a le langage de l'informatique, il y a le langage de l'économie. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, sauf que cette Église, en tout cas dans une société comme la nôtre, elle est toute petite, 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 et que les gens, ils connaissent pas, quoi. Alors ça, c'est un problème pour lesquels, enfin moi j'ai pas de réponse, mais en tout cas ça vaut le coup qu'on se pose la question. Après il y a peut-être le problème, moi j'ai parlé de mauvaise foi, il y a sans doute aussi un peu de mauvaise foi, on pourra en reparler sur les histoires de Benoît XVI. Il y a vraiment eu à un moment un espèce de pilonnage, je sais pas comment on dit, pilonnage médiatique, matraquage médiatique, hop, c'était à qui serait le plus agressif par rapport à Benoît XVI au moment de l'histoire de l'Afrique, etc. Ça c'est vrai, hein, il y a quand même aussi des moments, des espèces de cristallisation d'un laïcisme français, je sais pas d'où ça vient. Il y a aussi le problème de l'Église, ça c'est un peu une question à Monseigneur Potvin, c'est quand même cette langue de bois, nous on appelle ça la langue de buis, qui effectivement, non mais c'est vrai, qui fatigue tout le monde, quoi. Il faut en sortir, il faut qu'on arrive à en sortir, il faut que les évêques quand ils parlent vrai. Et alors c'est compliqué, parce que parler vrai sans contredire le pape, parler vrai dans une Église qu'on sent fragile, Donc du coup, on se dit plutôt, on va protéger ce qui peut être protégé, donc on va pas tirer sur l'ambulance. Oui, mais alors du coup, il n'y a plus de crédibilité. Moi, ça m'a beaucoup frappé sur l'histoire de Pidouze. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça. Il se trouve que j'étais en vacances, donc je l'ai pas traité comme journaliste. Donc du coup, j'ai pu un peu voir comment c'était traité par les médias. Et c'est vrai que sur ce sujet, il y a eu une crédibilité de La Croix qui m'a beaucoup surpris, parce que La Croix fait un édito assez courageux en disant mais finalement ça veut dire quoi d'abord de béatifier comme ça un pape, il faut peut-être se poser d'abord cette question-là, etc., etc. Et du coup c'est devenu un peu la parole de l'Église, que ce que n'est pas La Croix. Je veux dire, la Croix c'est pas un évêque. Et par contre c'est vrai que les évêques étaient interrogés, étaient gênés, bon ben oui mais quand même, Pidouze formidable. Alors c'est ça le problème, c'est que du coup, qui est-ce qui parle au nom de l'Église et est-ce qu'on peut pas aussi avoir de temps en temps des paroles vraies qui peuvent aller jusqu'à dire, eh ben non, on n'est pas forcément aligné comme des soldats sur le Vatican, sur le pape, ou voilà. Moi c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse, c'est facile pour moi de la poser. Je pense que pour Mgr Potvin c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui il y a un discours qui ne passe plus, quoi. On n'en peut plus. Il y a un espèce de discours lénifiant de l'Église sur elle-même qui marche plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas quel est votre point de vue. La deuxième question, sur laquelle j'irai beaucoup plus vite, c'est l'Église doit-elle communiquer? Oui, évidemment que l'Église doit communiquer. Alors après, c'est plutôt des questions par rapport à ça. C'est qui communique? Là, je reviens un peu à ma première partie. Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est l'évêque? Est-ce que c'est l'ensemble des catholiques? Quelle est l'image qu'on veut donner de l'institution Église? Moi je prenais l'exemple de Lourdes. On dit voilà, les évêques se réunissent à Lourdes, ils vont parler de l'Église, etc. Donc du coup pour les médias, c'est le sommet de l'Église de France est à Lourdes. Bon, ensuite il y a une photo qui est prise à la fin de cette semaine de Lourdes où on voit tous les évêques alignés comme ça avant la messe. Bon, voilà, c'est cette photo-là, c'est une photo d'hommes, je suis désolée, mais c'est que des hommes, un peu âgés. Non, mais c'est comme ça, alors moi je suis pas du tout, féministe à tout craint, mais quelle est l'image de l'Église qu'on donne à travers ça? C'est quoi l'Église? Et c'est là où il faudrait peut-être se poser la question, mais nous tous, qui est-ce qui aujourd'hui peut communiquer, qui peut parler et pour l'institution et pour l'Église? Nous à La Croix, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des gens autres que les évêques pour parler. C'est vrai que les laïcs, pourtant des laïcs se forment ici notamment, mais un peu partout en France depuis 40 ans, ils se forment. Ils font la théologie, je veux dire, il y a peut-être en France, c'est peut-être là où les laïcs se forment le plus, avec sérieux, c'est quand même ce mouvement-là, il est extraordinaire, il est formidable. Mais n'empêche qu'au niveau de la communication, on n'en voit pas les fruits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des laïcs? Alors, je sais qu'il y a eu des tentatives, il y a eu le groupe Parole, il y a eu des choses comme ça, mais voilà. Est-ce qu'un laïc, est-ce qu'une laïque, est-ce qu'une théologienne, est-ce que des gens peuvent aussi prendre la parole comme catholiques, quelle est leur marge de manœuvre? Moi, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je trouve qu'il faut se poser la question, parce que sinon, la communication, c'est aussi une image, et l'image que l'on renvoie à la société, c'est une image masculine, un peu âgée, voilà, et très institutionnelle. Alors, il faut aussi voir. Par exemple, ce qui m'avait surpris à Lourdes, parce que justement, c'est quand j'avais discuté avec les évêques de la manière dont ils gouvernaient leur diocèse, etc., tous ces évêques sont vraiment entourés de laïcs et notamment entourés de femmes. Aujourd'hui, pratiquement tous les conseils épiscopaux. Enfin, non, mais c'est vrai. Donc, et ils me parlaient vraiment. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec les laïcs, qui ont l'habitude de parler, etc. Donc, c'est pas du tout une mauvaise volonté. Après, c'est le problème, c'est de l'image qu'ils donnent. Voilà. Et cette image de cette église qui est la vraie église, on le sait tous, cette église qui est aujourd'hui une église et de laïcs et de prêtres, qui est une église qui est quand même une église assez synodale, qui est une église qui débat, etc. Toute cette image-là, elle n'arrive pas ensuite à franchir la barrière médiatique. Bon voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça dommage. C'est vrai aussi qu'inversement, les médias et notamment les médias généralistes, eux, ils veulent un curé ou un évêque. Ils vont jamais vouloir une femme quand ils veulent une parole d'église, parce qu'il faut quelqu'un qui soit bien estampillé, habillé, c'est encore mieux. Comme maintenant, on revoit la soutane, c'est encore plus formidable. Mais non, mais c'est vrai. Alors c'est vrai aussi qu'il y a peut-être aussi à éduquer les médias laïcs pour leur dire, ben voilà, l'église, c'est pas simplement ni le pape ni les évêques, c'est aussi d'autres gens. Mais je crois que là, il y a vraiment un travail à faire. Ensuite, quand je dis qui parle, ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que je pense que quand même, moi c'est mon point de vue, je le partage, c'est que l'Église de France notamment est très atomisée. Moi j'ai été extrêmement choquée de ça en revenant ici. Je le sentais un peu à Rome, mais on est quand même aujourd'hui dans une espèce de multitude de chapelles. Alors effectivement, il y en a qui communiquent très très bien. Notamment sur Internet, ce sont ceux qui sont plutôt dans une ligne traditionnelle, traditionaliste. Alors là, ça communique bien, ça, y a pas de souci, en tout cas sur tous les moyens modernes de communication. Voilà. Alors bon, on va aussi avoir ce problème-là, qui communique et quelle église communique. Comment est-ce qu'on rend quand même une image de communion par rapport à tout ça? C'est assez compliqué, je trouve, comme problème. Mais en tout cas, je pense qu'on est de plus en plus dans une espèce de multiplication de petites communautés. Chacun va avoir sa petite communauté qui correspond un peu à sa sensibilité. Alors par rapport à ça, c'est quoi l'Église catholique et c'est quoi la communion de l'Église catholique? Est-ce que c'est la paix liturgique? Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont un mouvement qui est extrêmement puissant sur Internet. Je pense que derrière, il y a pas grand monde, et qui envoie comme ça à tous les journalistes un compte-rendu de tous les lieux où il y a des messes en rite tridentin et tous les lieux où des évêques ou des prêtres s'opposent à des messes, où des évêques ou des prêtres font des erreurs liturgiques quand ils disent la messe, etc. Donc c'est un lieu de dénonciation. On reçoit, nous comme journalistes, un mail par jour de eux, et ils ont vraiment un très large écho, ils ont une très grande efficacité. Bon, est-ce que c'est l'Église? Oui, c'est une partie de l'Église. Voilà, qui est-ce qui communique et comment est-ce qu'on va faire plus tard pour quand même arriver à avoir une communication un peu cohérente avec tous ces groupes. Bon, je pense qu'il faut continuer à communiquer, et d'autant plus que c'est vrai qu'on devient une minorité, en tout cas une minorité, ou en tout cas un groupe de moins en moins important dans un peu un océan d'ignorance. Et c'est important, parce que si on renonce à communiquer, on va disparaître du paysage, quoi. On va communiquer entre nous, mais ensuite on va disparaître complètement du paysage médiatique et du paysage tout court. Et moi là, je vais finir en vous citant le pape, parce qu'en fait moi j'aime beaucoup Benoît XVI, et je trouve qu'on critique beaucoup, mais on prend pas le temps de le lire, sans doute parce qu'aujourd'hui la communication elle passe plus par le texte, et c'est dommage parce qu'il dit des choses qui sont intéressantes. Et ça, c'est ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit ça juste avant Noël, à propos de cette nécessité dans les sociétés sécularisées, notamment européennes, d'aller vers des gens qui ne croient pas. Alors il dit, les gens qui se considèrent comme agnostiques ou athées doivent aussi avoir une place dans notre cœur de croyants. Peut-être ces gens ont-ils peur quand nous parlons de nouvelle évangélisation. Ils ne veulent pas se voir comme objet de mission, ni renoncer à leur liberté de pensée et de volonté. Pape qui dit ça. Mais la question de Dieu continue à exister pour eux aussi, même s'ils ne peuvent pas croire au caractère concret de son attention pour nous. Comme premier pas de l'évangélisation, c'est là que je trouve ça intéressant, nous devons essayer de maintenir vivante cette recherche. Nous devons faire en sorte que l'homme ne mette pas de côté la question de Dieu comme question essentielle de sa vie. Faire en sorte qu'il accepte cette question et la nostalgie qui s'y cache. Et ensuite, il demande à l'Église d'ouvrir ce qu'il appelle une sorte de cour des gentils. La cour des gentils, au moment à l'époque du temple de Jérusalem, c'était une cour où se tenaient les non-juifs, mais qui quand même croyaient au Dieu unique. Voilà, c'était un peu un espèce d'avant-poste. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église devrait aussi ouvrir une sorte de cour des gentils, où les hommes puissent en quelque sorte s'accrocher à Dieu sans le connaître, et avant d'avoir trouvé l'accès à son mystère, au service duquel est la vie interne de l'Église. Au dialogue avec les religions doit aujourd'hui s'ajouter avant tout le dialogue avec ceux à qui la religion est étrangère, à qui Dieu est inconnu, et qui pourtant ne voudraient pas simplement rester sans Dieu, mais l'approcher au moins en tant qu'inconnu. Moi, je trouve ce texte vraiment intéressant, parce que c'est là où je trouve que la communication rejoint quelque part l'évangélisation. C'est-à-dire que si on communique plus, on disparaît. Et cette cour des gentils, elle n'existera plus. Voilà, merci.
Merci beaucoup Isabelle. Je savais qu'en t'invitant, nous aurions une parole libre, s'appuyant sur ta richesse d'expérience de toutes ces dernières années. Je pointe peut-être l'une ou l'autre chose qui me semble assez importante dans ce que tu as dit, notamment sur ce problème quand même de l'institution, avec la personnification, la polarisation autour de la personne du pape, qui est peut-être l'un des problèmes qu'il y a autour de la question de la communication. Le problème aussi qui n'est pas tant la mauvaise volonté des journalistes, on comprend que tu puisses dire ça, mais peut-être que le rythme des médias n'est pas celui de l'Église. Là, il y a sûrement quelque chose d'intéressant aussi à creuser. Le tout dans un monde d'une très grande ignorance, une ignorance qui va sans doute grandir. Alors comment parler vrai dans une église fragile? Là aussi, je trouve qu'il y a une question qui est assez importante pour nous. Qui parle? Et qui parle dans une église atomisée? Voilà, alors autant de questions sur lesquelles nous allons pouvoir continuer à réfléchir. Comment ne pas renoncer à la communication, parce qu'effectivement c'est lié à ce qu'est l'Église, hein, mais comment pouvoir le faire de manière juste et vraie. Transition.
Merci.
Merci, Père Potvin.
J'apprécie toujours beaucoup partager avec Isabelle à la fois les temps de réflexion, et je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle introduit ce soir. Et aussi partager l'exercice professionnel, parce que notamment dans cette année 2009 qui fut particulièrement éprouvante, nous avons vécu le concret d'une communication. C'est le moins qu'on puisse dire, que les événements n'ont pas manqué. Je voudrais, en résonance à beaucoup de choses qui sont dites depuis tout à l'heure et dans lesquelles je me retrouve très bien, je voudrais commencer par quelques éléments de contexte. Rappeler quand même que ce soir, si nous sommes venus dans cet amphi, c'est aussi parce que nous vivons dans l'incarnation d'un monde qui est marqué par une communication qui ne peut être ignorée si nous voulons réfléchir quelques minutes sur la communication de l'Église. Alors, je ne vais pas évidemment ici faire le propos sur la com indépendamment de l'Église, mais quand même, rappelons quelques données pour dire ce monde d'une communication qui a été décrite tout à l'heure à juste titre comme extrêmement volatile, extrêmement virtuelle aussi, souvent binaire dans son langage. Cette communication d'aujourd'hui, cette communication ambiante est fragile. Elle est à l'image de l'homme dans sa fragilité. On a dit que l'Église est fragile. Effectivement, elle ne l'est pas moins. L'Église, elle est fragile aussi. Mais tout aujourd'hui, dans la communication universelle, reflète ce paradoxe de l'hyperpuissance et de la fragilité. Hyperpuissance, Facebook par exemple. Facebook pèse aujourd'hui autant que ne pèsent les internautes chinois, l'équivalent des internautes chinois. En ce moment, le poids internaute de la Chine, c'est l'équivalent de Facebook. C'est dire, demain, après-demain, quand la Chine s'éveillera davantage encore à cette réalité, c'est dire le développement mondial de cette technologie de communication. Mais dans le même temps, nous avons enregistré en France l'année dernière une chute de 36% des offres d'emploi dans le domaine de la communication. 36%. C'est dire la fragilité de ce monde qui se cherche, qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je suis très frappé dans ma pratique de porte-parole de ce que des journalistes viennent m'interviewer, sans savoir dire si dans quelques mois, dans quelques temps, ils seront encore au poste qu'ils occupent, si socialement il n'y aura pas un problème qui va se poser entre le moment de l'interview et le moment de la publication. C'est très fragile, c'est frappant cette fragilité. Ça n'explique pas évidemment le tout de nos problèmes, cela va de soi, je ne prétends surtout pas reporter sur cette fragilité les problèmes qui sont les nôtres, Mais je me permets d'insister là-dessus parce que sinon nous nous méprenons à disserter sur une Église qui communiquerait bien ou mal sans considérer ce terrain médiatique, ce terrain de communication extrêmement mouvant. Le rédacteur en chef de la revue Stratégie, qui est une revue spécialisée en communication, qui n'est pas du tout une revue catho, a titré son édito de décembre « Babel Web ».« Babel Web ». Et il dit « Je ne sais pas bien ce que les internautes vont retenir de 2009. Quel événement retiendront-ils de 2009 dans le Babel Web tel qu'il le décrivait ?» Et on peut donner, Isabelle a donné quantité d'illustrations dans lesquelles je me retrouve tout à fait, pour dire cette difficulté d'aujourd'hui, du contexte médiatique, pour dire aussi l'aspect d'une culture religieuse qui aujourd'hui se cherche, qui est souvent très pauvre. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes ont l'honnêteté de le dire. Ils ont l'honnêteté de dire qu'ils savent pas. Je prends simplement une anecdote toute récente. Nous sommes le 24 décembre. Il est 11h. Je reçois un coup de fil de France 3, chaîne nationale. Très vite, urgence, il faut qu'on vous interviewe parce que le Saint-Père célébrera pas à minuit, mais à 22h. Problème fondamental, mobilisateur d'une équipe technique. Je n'en revenais pas, je leur dis, attendez, c'est pas vrai, vous allez quand même pas vous déplacer au siège de la conférence simplement pour me poser cette question. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Ah non, 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 non. Non, et d'ailleurs, il faut faire très vite pour que vous soyez dans le journal de 12h30. C'était la seule question. Le minuit qui intriguait parce que Benoît XVI, pour une fois, faisait rupture avec la tradition. Benoît XVI devait se porter très mal. Il allait visiblement mal. On ne nous disait pas tout. Puisque Jean-Paul II, au moment où il était au plus mal, avait maintenu la tradition de minuit. Donc vous voyez bien qu'on nous cache quelque chose. C'est vous dire si au moment de la chute du Saint-Père, en pleine messe de 22h et non de minuit, tout le monde s'est retrouvé complètement surpris de l'extrême bonne santé du Saint-Père dans sa capacité à se relever aussi rapidement. Et le lendemain matin, à 6h du mat, j'étais réveillé par d'autres médias, étonné de cette santé, me demandant la santé du cardinal Etchegaray. Et j'ai passé les 3 jours qui suivaient à mesurer la popularité d'un cardinal Etchegaray, pour parenthèse, qui est super populaire en France. On ne cessait de me demander quand pourra-t-il enfin répondre à nos questions. Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir en direct de la clinique Gemelli pour qu'il réponde chaleureusement et qu'il nous dise que tout va bien. Bon, c'est quand même révélateur de quelque chose, ça. Hein, ça illustre un contexte que tout à l'heure Isabelle a remarquablement décrit avec ses pauvretés, aussi son côté très attachant, parce que moi j'aime aussi beaucoup les journalistes, j'aime beaucoup les communicants d'aujourd'hui, il faut les accueillir, il faut les écouter beaucoup dans ce qui est leur vie, et c'est au cœur de ce contexte difficile qu'alors nous pouvons réfléchir sur cette communication ecclésiale. C'est peu dire, si ce soir nous essayons de ne surtout pas pratiquer la langue de bois ni de buis, c'est peu dire qu'en 2009, nous nous sommes pris la claque. La claque, triplement. Première claque, les crises. Les crises à répétition, mises en boucle. Et tout à l'heure, comme le disait Isabelle, avec un véritable pillonnage anti-Benoît XVI, qui venait de surcroît se poser là-dessus. Les crises en boucle. Deuxième claque, terrible claque. On est venu nous montrer une communication émergente, la communication des autres, qui, elle, fonctionnerait bien. Celle des évangéliques, par exemple, pour ne citer que celle-là. Mais on pourrait en considérer d'autres. Il y aurait d'autres communications qui font du buzz. Elles en font. Elles font du bon bruit médiatique. Elles ont un indice, un IBM, indice de bruit médiatique excellent. Le top chrétien, pour ne pas le citer, pulvériserait des records. Et en plus, il a pas moins de 17 permanents à son service. Je vous dis pas de combien de permanents. Moi, je suis le chef de service au quotidien dans le service de la conférence épiscopale. Bon. Troisième niveau de claque, c'est ce que j'appelle l'étrangeté. dans laquelle nous entrons de plus en plus fortement entre ce qui a été dit tout à l'heure d'un langage religieux et d'une société, une sorte d'étrangeté qui est en train de grandir. Un confrère de Nanterre me disait tout à l'heure, il est spécialisé en liturgie, il disait, nous estimons qu'on est aujourd'hui rendu à 75% de funérailles religieuses encore, statistiquement. Dans 10 ans, en 2020, on sera plus qu'à 50% de funérailles religieuses. C'est un indice important, parce que le lien à la mort est fondamental. Et si même là, on décroche, statistiquement, 100 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, oui, c'est vrai, on s'est pris la claque. Il faut d'ailleurs ajouter à ça que, pour mon baptême du feu, de porte-parole, je fus copieusement servi parce que je suis nommé depuis un an à cette mission et j'ai commencé par Gaza. Parce qu'on oublie un peu vite qu'il y a d'abord eu Gaza dans cet ensemble de crises. Ça commence par Gaza, et Gaza, c'est pas des plus simples à gérer en termes de com, notamment interreligieuse. Je vous fais pas de dessin sur la difficulté d'accompagner début janvier 2009 l'hypothèse d'un communiqué interreligieux qui n'est pas encore rédigé à ce jour. Impossible communiqué. Il suffit pas que le président de la République suggère au vœu 2009 aux communautés religieuses d'en rédiger un pour qu'il soit rédigé. Nous l'attendons encore, ce communiqué. De Gaza au dernier événement depuis 12, avec l'ensemble que j'ai évoqué tout à l'heure de tous les événements d'une messe de minuit, c'est peu dire que nous sommes évidemment globalement servis. Et pourtant, j'aime intensément cette église, je me passionne pour elle, et paradoxalement, je suis de plus en plus convaincu qu'elle a en elle un potentiel de communication phénoménal. Alors je ne sais pas si elle sait ou si elle ne sait pas communiquer, mais en tout cas elle a un potentiel phénoménal en elle, et je constate qu'elle communique, l'église, quand elle se met en posture, au pluriel, quelques postures que je me permets d'identifier, si vous le voulez bien. Une première posture, c'est quand elle dit la proximité. Là, elle communique. Là, elle est excellente. Un diacre engagé au service des réfugiés fait pleine page, il y a quelques jours, d'un journal pourtant très anti-religion. Pleine page. Sa proximité est proximité qui fait signe de ce religieux, entre guillemets. Elle communique aussi, l'Église, quand elle veut bien ne pas être condescendante par rapport à la demande initiale. Consentir dans un dialogue avec les hommes de communication à partir de leur demande. La journaliste qui est venue me voir, voici quelque temps, journaliste de France Soir, pour un échange sur les vocations. Dans un premier temps, on pouvait être un peu surpris par le côté un peu basique de ces questions. Eh bien, elle vient de nous faire une pleine page, superbe, sur les initiatives de l'Église en matière vocation. Superbe page. Mais la demande initiale, dans un premier temps, était un peu bredouillante. On aurait pu la snober, cette demande. On aurait pu la regarder en condescendance. L'Église communique, elle sait communiquer quand elle donne le signe d'une ecclésialité partagée. Et là, je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la polarisation excessive. Il n'est pas bon que, pour notre ecclésiologie, nous polarisions à ce point sur des fonctions. Je le dis d'autant plus volontiers que moi, je me sens très heureux d'être porte-parole des évêques. Et je les remercie chaque jour de la confiance qu'ils me font. Et j'ai une excellente relation avec eux. Mais la polarisation qui a été soulignée tout à l'heure est effectivement excessive. Nous devons tous d'ailleurs nous en libérer quelque part. J'apprécie beaucoup que des laïcs en ce moment, là, depuis quelque temps, se trouvent sur la blogosphère pour la rendre justement moins identitaire, comme disait Isabelle tout à l'heure, que souvent nous pouvons redouter qu'elle soit, pour y apporter leur part profonde au débat, et une interactivité très, très intelligente, très constructive. Mes contacts avec ces communicants sont passionnants. Le porte-parole qui ce soir est devant vous ne ferait rien si chacune de ces journées n'était marquée par un contact avec un des délégués diocésains à la com. Il y a une centaine de délégués à la communication sur notre territoire, dans notre église en France. Ils sont remarquables dans leur travail de terrain, chacun au service de leur diocèse. C'est un maillage permanent. Je ne peux pas vivre une journée sans en entendre un au téléphone ou travailler avec un des diocèses. C'est fondamental. L'Église communique aussi quand elle induit un processus dialogal. Le blog de bioéthique animé, suscité par Mgr Dornelas, a été apprécié, il a été référencé, il a été soutenu par des milieux décideurs, des milieux nombreux, parlementaires, politiques, économiques, pour dire les enjeux d'une bioéthique, parce que la qualité de ce blog était un travail, évidemment un énorme travail, parce qu'il ne suffit pas de dire « je vais bloguer », il faut y aller avec qualité, et là aussi, ça se joue du côté d'une communication possible. L'Église communique également quand elle ouvre à l'altérité. Je prends simplement comme ça pour illustration la retraite dans la ville proposée à de plus en plus de personnes qui aujourd'hui ont dit qu'il y aurait 100 000 visiteurs uniques sur ce site, sur cette proposition de la retraite dans la ville, et parmi eux 40% de moins de 50 ans, ce qui est quand même pas négligeable par les temps qui courent pour une église qui par ailleurs vieillit, etc., etc. Il y a donc une église qui sait communiquer quand elle entre dans ses postures, et je ne prétends pas les avoir citées de façon exhaustive. Et donc, si nous voulons attaquer de front les défis d'une communication qui trop souvent est en crise, nous avons des voies de progrès à chercher tous ensemble. Et c'est ce tous ensemble qui est passionnant. Si vous êtes venus là ce soir, c'est bien pour ne pas vous substituer à Benoît XVI ou à d'autres, ou ne pas tout renvoyer à je ne sais qui. Nous ne pouvons assurer tous les métiers de communication, nous avons chacun une posture à adopter, et nous avons des voies de progrès énormes. J'en cite quelques-unes. Progresser du côté de l'anticipation. Il est clair que nous ne sommes pas bons du tout du côté de l'anticipation. Je suis bien placé pour le savoir. Je vais vous dire, ce n'est pas forcément très confortable, hein, quand un 19 décembre... les médias commencent à me téléphoner dans les premières minutes en me disant, ils avaient évidemment Jean-Paul II en perspective pour la béatification. Ils avaient, dans un premier temps, lu que Jean-Paul II. Et dans un premier temps, j'ai eu des interviews radio en me disant, mais vous devez être super heureux, Jean-Paul II va être béatifié. Et puis voilà que dans l'heure qui suit, d'autres médias avaient lu l'ensemble de la dépêche, et avait lu l'ensemble du décret, et j'avais d'autres types de téléphones. On ne pourrait pas vous interroger désormais, non plus sur Jean-Paul II, mais sur Pie XII. Hein. Bon, il y a donc un ensemble d'éléments là, du côté de l'anticipation. L'anticipation. Nous avons à progresser du côté d'une communication de nos réseaux. L'Église catholique, c'est un ensemble de réseaux fabuleux sur le plan universel. C'est fabuleux. Et qu'est-ce que ça peut aider quand nous consultons les uns les autres? Moi, par exemple, quand je peux consulter un de mes homologues d'une conférence épiscopale, quand un pays est concerné par une question, c'est aidant énormément. Nous avons sans doute aussi à réhabiliter des icônes, au bon sens du terme. Des icônes qui sont servantes de l'homme, qui aiment l'homme. Et il y a sans doute un travail de ce côté-là. Un vrai travail. C'est pas pour rien qu'un cardinal Etchegaray soit si populaire et qu'il y ait peut-être à travailler du côté de ses icônes dans toutes les vocations et dans tous les états de vie. Nous avons sans doute aussi, comme dit Mgr Rouet, à continuer à essayer de comprendre pourquoi nous ne sommes pas compris. Nous devons prendre le temps de comprendre pourquoi nous ne sommes pas compris, dit le père Rouet. Et il a raison. C'est un devoir impérieux de chercher pourquoi nous ne sommes pas compris. Nous avons certainement aussi à être créateurs de l'événement. Nous subissons trop en termes de réactivité. Nous avons à créer l'événement. Et nous avons là un potentiel dans notre vie chrétienne. Un potentiel fabuleux. à commencer déjà rien que par notre calendrier liturgique, qui peut être matière à des rendez-vous fabuleux. Quand on voit comment, autour de Noël, se sont faits des reportages remarquables, que ce soit de solidarité, de sens de Noël, de fraternité, d'ouverture à ceci, à cela. Et nous avons certainement aussi à soutenir les médias qui ont fonction de conforter la communauté chrétienne. Ça me semble aussi être une urgence, parce que la communauté chrétienne a besoin d'être encouragée aujourd'hui. Et il est des médias qui sont peut-être un peu plus internes à l'Église, les journaux diocésains et autres, qu'il faut aussi soutenir. Il le faut parce que la communauté chrétienne aujourd'hui, elle est bousculée. On a dit tout à l'heure Église atomisée. Quand le vent est à la crise, il y a une fraternité à susciter. Et il est important à la fois d'être vrai, d'être défenseur de Benoît XVI quand on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Sur un plateau de télé, fut-on très seul parfois, certains jours, eh bien il faut savoir dire, vous faites dire à Benoît XVI ce qu'il n'a pas dit. Et en même temps, ne jamais oublier l'encouragement du terrain, susciter la confiance, conforter les communautés, parce qu'elles sont ébranlées, elles sont secouées, quand justement cette médiatisation s'affole. Au cœur de tout ça, les temps que nous vivons sont difficiles, c'est vrai, mais passionnants, parce que énormément de choses se font, énormément de choses. Le week-end prochain, nous aurons à la conférence un week-end de tous les sites internet connectés à notre site de la conférence. Il y a 800 sites connectés aujourd'hui, 800 sites qui sont vivants, qui sont riches, qui déploient une communication. Vous avez peut-être entendu parler du festival du Kaléidoscope, organisé en termes catéchétiques, superbe festival du court-métrage, très beau, de très belles productions à Poitiers cette année. On pourrait signaler le côté prestataire de l'Église, qui demeure, une fonction noble aussi, d'être prestataire pour servir l'homme. Par exemple, le Messe Info, le fameux Messe Info, qui renseigne sur les heures de messe. C'est 72 000 visites par mois. Ça répond à quelque chose, quand même. C'est pas non plus à mépriser comme relation. On pourrait aussi citer énormément d'appels, de coups qui sont tentés, des coups de sonde qui sont tentés, soit de notre côté envers les médias, ou des médias envers nous. Ça n'aboutit peut-être pas toujours à du reportage, parce qu'il y a énormément de contingences qui font que ça se fera peut-être pas toujours en termes de publication, mais il faut surtout pas croire qu'il n'y ait pas de relation. Et on pourrait comme ça multiplier énormément de choses. Au fond du fond, je rejoins aussi Isabelle quand elle dit « les questions peuvent pas être traitées de façon seconde », nous sommes dans un enjeu culturel considérable. Nous avons à retravailler la base anthropologique de nos fonctionnements, de ce qu'est la communication aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été impressionné de voir que Vatican II dit à la fois, dans son document sur les médias, Inter Mirifica, qui est un document pionnier. Les pères du Concile ont lancé un premier document. Alors évidemment, le langage a vieilli, terriblement vieilli, mais il n'empêche qu'ils disent dans ce document: la communication pour l'Église est originelle. C'est constitutif de l'Église de communiquer. Et le même Vatican II, dans Gaudium et Spes, numéro 76, insiste sur la puissance de Dieu, la puissance de son Évangile, transmise par la fragilité des témoins. Il y a à la fois quelque chose de constitutif, et en même temps, la puissance de l'Évangile, elle est entre nos mains, et nous sommes des témoins très fragiles, très fragiles. Et c'est un appel passionnant à ce que nous nous mobilisions. Finalement, quelque chose d'inédit se joue, et l'encyclique de Benoît XVI le dit. Alors malheureusement, en raison de tous les handicaps de communication, le texte de l'encyclique a du mal à parvenir auprès d'une opinion dans sa proximité. Mais si vous allez lire les numéros 55, 73, 33 de l'encyclique, vous y trouvez des choses fondamentales sur un plaidoyer de Benoît XVI pour des religions qui ne rendent pas les personnes étrangères les unes aux autres et qui ne les coupent pas du réel, dit le numéro 55. Si ça, c'est pas de la com, ne pas se couper du réel et ne pas nous rendre étrangers les uns aux autres. Il y a donc un appel énorme pour nous tous. Je me réjouis qu'on soit nombreux ce soir à pouvoir partager cette réflexion. Et comme il a été dit tout à l'heure, nous n'avons ni Isabelle ni moi prétention à dire ici ce soir le dernier mot. Jeanne de Chantal, la sainte Jeanne de Chantal, qui en cette année 2010 nous accompagne pour le 4e centenaire de la Visitation, écrit à ses sœurs, voici 400 ans, elle leur dit « Soyez davantage communicative, davantage. » Et elle ajoute « Que votre communication soit joyeuse, soit franche et soit cordiale. » Ça, ça n'a pas vieilli. C'est le programme qui doit être le nôtre. Une communication qui doit être franche, qui doit être cordiale, parce que si le cœur ne parle pas, on sera des technocrates de Dieu. Et joyeuse, parce que si nous sommes parfois dépassés par d'autres communicants, c'est peut-être parce que nous ne disons pas assez notre joie de croire. Et tout ça me motive beaucoup pour l'avenir.
Merci beaucoup, Père Potvin, de nous avoir ainsi conduit aussi à ce qui est le cœur de l'Église. Et la réflexion sur sur la réalité de l'Église face à un monde de la communication qui se situe à la frontière de la fragilité et de la puissance, que vous nous l'avez dit. Alors, il était bon, je crois, d'entendre que l'Église a un potentiel extraordinaire, qu'elle a des atouts pour communiquer. Je ne fais que citer quelques éléments que vous avez dit. Quand elle dit la proximité, quand elle n'est pas condescendante, quand elle donne le signe de l'unité, quand elle suscite le dialogue... Et puis qu'il y a quand même peut-être effectivement des points d'attention pour nous, d'anticiper davantage, d'encourager la communication dans nos réseaux, de réhabiliter peut-être, de mettre en lumière des figures, des icônes qui sont servantes de l'homme, de continuer notre réflexion pour comprendre pourquoi justement nous ne sommes pas compris, être créateur de l'événement, conforter les médias chrétiens, avec ce rappel qui est quand même effectivement fondamental et sur lequel vous terminez, bien que la communication pour l'Église, elle est originelle, elle est fondamentale et que nous ne pouvons pas passer à côté de cette question-là. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer ensemble cette réflexion à partir des réactions, questions, peut-être témoignages aussi de la plupart d'entre vous dans la salle. Il y a un micro qui va se balader. Et on va peut-être prendre plusieurs questions ou réactions avant de redonner la parole au Père Potvin et à Isabelle. Monsieur Alfred Grosser, devant.
Deux ou trois réflexions. La première, l'encyclique est le contraire de la communication. J'ai lu pendant une journée entière l'encyclique. Personne ne lit une journée entière l'encyclique quand il n'est pas forcé. Sur l'encyclique elle-même, un point de désaccord, le seul point de désaccord avec la première oratrice, non. Le texte que vous avez lu à la fin est aussi le contraire de la fin de l'encyclique. À la fin de l'encyclique, il y a la phrase épouvantable, oui, « Un humanisme sans Dieu, c'est le contraire de l'humanisme ». Et c'est donc là, il y a dans l'encyclique des hésitations à l'égard de ceux qui ne croient pas, qui sont assez terrifiantes. La croix. Alors la croix, j'ai vécu à la croix la disparition du crucifix à la première page. Et à ce moment-là, il y a eu des lettres des lecteurs pour dire « Alors vous nous dites plus ce que nous devons penser ». La croix a fait d'immenses progrès. Elle ne dit pas toujours tout ce qu'elle pense. Elle le cache un peu hypocritement dans le courrier des lecteurs qui est déséquilibré de façon telle qu'on sait quand même ce que la rédaction pense. Mais J'aimerais que l'information soit plus large. Je me permets de prendre un exemple, Pie XII. D'abord, aucun rappel que Jean-Paul II a mis sur le plan, même plan, Jean XXIII et Pie IX. Ce qui, à mon avis, était quand même allé encore plus loin. Deuxièmement, sur Pie XII, il fallait être complet. Oui, les Juifs, mais Congar, mais de Lubac, mais les prêtres ouvriers, mais en sens inverse, divino afflante spiritu, un exemple à donner aux musulmans tout le temps, l'autorisation d'être critique à l'égard des Écritures, ce qui n'a jamais été le cas chez les musulmans. Donc, j'aurais souhaité qu'il y ait une espèce d'équilibre dans la présentation. Pour le reste, l'Église est très timide quand l'un de votre prédécesseur dit quelque chose de fondamental, ça n'a pas été repris. Michel Falco, interrogé pour savoir si la pilule, la seule préoccupation, répond d'une manière que j'ai trouvée magnifique, personnellement. Il répond, l'Église considère qu'il y a des états humains supérieurs à d'autres, la fidélité est un état supérieur, point. Mais l'Église n'a jamais été ni pour le meurtre, ni pour le suicide. Et cette phrase qui va finalement très loin, à ma connaissance, n'avait pas été reprise. Dernier point, dans les combats récents non soutenus par la conférence des évêques qui, d'après Vatican II, a tout de même un pouvoir, les Allemands ont donné l'exemple de ce qu'on pouvait répondre à Rome et le président de la conférence des évêques allemands, une espèce de Jean XXIII dont on n'entendait pas grand-chose, mais qui s'est révélé très courageux, a dit face à Rome sur les évêques léphévriens, des choses que l'inférence épiscopale française a tues avec l'idée qu'il fallait absolument défendre le pape à tout prix, sur tout point. Et je crois que là, il y a un point central du pape à défendre à tout prix.
Merci, Monsieur Grosser. On va prendre peut-être l'une ou l'autre réaction ou question, s'il y en a. Oui, monsieur, alors, voilà.
Oui, bonsoir. Étienne Outrel, j'avais une question. Moi, j'ai noté un mot de Mgr Potvin sur donner le signe d'une ecclésialité partagée. Alors, je suis un peu perplexe sur l'expression ecclésialité partagée. Il me semble que... je voudrais savoir si finalement il est possible au sein de la conférence épiscopale d'avoir un pluralisme d'opinion et est-ce que ce pluralisme d'opinion, il peut s'exprimer. J'ai parfois un peu l'impression d'une image un peu... monolithique de l'opinion au sein du magistère en France, et je trouve ça un petit peu dommage parce que je crois que les hommes, en fait, ils sont divers, ils ont des opinions diversifiées, mais qu'on a un petit peu de mal à assumer cette diversité pour des raisons qui m'échappent un peu, parce que je crois que cette image qu'on essaye de donner unique, finalement on n'y arrive pas si bien que ça, et je trouve qu'on se prive de quelque chose qui est la richesse de la diversité des opinions des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes d'ailleurs dans le cas du magistère.
Merci beaucoup. Une troisième intervention, voilà, de l'autre côté, justement, une femme. Voilà, le micro arrive.
Bonsoir. Je travaille dans le domaine de la documentation et j'ai un peu regretté que vous n'évoquiez pas trop la communication dans les communautés ecclésiales, notamment dans les paroisses. Et donc, comme il se trouve que je suis amenée à écouter pas mal de personnes qui ne sont pas pratiquantes, forcément, je m'intéresse un peu plus à la communication et qui me posent des questions, par exemple... du style, mais enfin, qu'est-ce que fait l'Église en matière de convivialité? Est-ce qu'ils organisent des trucs? Alors bon, évidemment, je suis bien obligée de consulter les sites internet. Et je me suis beaucoup amusée, parce que dans le 15e, donc, pour orienter cette personne, je lui dis, écoute, il y a un GR amitié super, comme ça tu seras moins seule, vas-y. Bon, alors je m'amuse, je vais sur le site du 15e, de cette paroisse donnée, et je vois tout, sauf ce GR amitié qui ne figurait pas. Alors, j'ai voulu dénouer l'intrigue, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur ce feuillet paroissial s'il figure. Eh bien, il figurait sur le feuillet paroissial, mais pas sur le site internet, ce que j'ai trouvé très regrettable. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Monseigneur, je voudrais dire ce que votre phrase, que notre communication soit cordiale, eh bien là, je me dis, ben, finalement, on loupe le coche, parce que quelqu'un qui est pressé, qui a besoin de voir sur le site internet paroissial que telle activité figure, eh bien, c'est très dommage. Par exemple, qu'une formation, un groupe qui soit pas axé formé, enfin, uniquement sur la formation ne figure pas sur internet, ça, je trouve ça extrêmement regrettable. Parce que l'Église a besoin de tant de convivialité, et je pense que c'est un petit peu ce qui manque dans l'Église aujourd'hui, et que des personnes qui ne sont pas pratiquantes aujourd'hui sont de plus en plus en demande de tant de convivialité. C'est ce qu'elle reproche à l'Église.
Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, et on va redonner la parole à nos intervenants. Alors, le journal La Croix a été... non pas prise à partie, mais en tout cas sollicité dans une réponse.
Oui, ça m'amuse, parce que déjà, quand j'étais étudiante, j'allais écouter M. Grosser, et là, je continue à l'écouter et continue à m'apprendre des choses. Donc, j'ai bien enregistré sur P12, sur le courrier de la Croix. Je crois qu'il faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Il y a d'une part les journalistes et le travail d'information. Après, on informe sur des événements, on essaye de montrer le pour et le contre. Et justement, si on enlevait le crucifix d'une certaine manière, c'est pas pour dire ce qu'il faut penser. Et en tout cas, moi, mon boulot à moi, en tout cas en tant que chef de service et donc à la rédaction de La Croix, c'est pas de prendre parti. Il y a un édito pour ça qui, sur des questions graves, effectivement, prend parti, mais pas tout le temps. Mais sinon, c'est plutôt de montrer la complexité des choses, qu'il faut nuancer, que tout n'est pas si simple et qu'on peut avoir tous les avis, mais en tout cas connaître l'avis contraire. L'idée de La Croix, c'est quand même de parler, pour faire court, du parvis aux intégristes, aux moins traditionnalistes. Voilà, donc c'est très large. Et l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve quand même. Hein. Donc c'est que nous, on n'a pas asséné des leçons comme ça. Moi, à Rome, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient totalement différents de moi, mais avec qui on pouvait discuter. Et je trouve que c'est ça qui est important. Et sinon, on est dans l'invective et dans l'exclusion. Sur ce qui est, par contre, sur la dernière phrase, sur l'encyclique, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi la dernière phrase du discours de Benoît XVI aux Bernardins. À l'époque, personne ne l'avait remarqué, tous les intellectuels avaient dit c'est formidable, ce pape, etc. Personne n'avait remarqué que la dernière phrase était un peu exclusive. C'est un problème théologique qui me dépasse, mais je pense que c'est le problème de la conception de la vérité chez Benoît XVI qui est compliqué et qui va parfois jusqu'à exclure. Et en même temps, dans un dialogue avec Habermas, il reconnaît l'importance de discuter avec des non-croyants. Donc je pense que là-dessus, c'est effectivement compliqué comme souvent avec Benoît XVI. Donc on peut trouver des opinions partagées. Voilà, mais vraiment le courrier des lecteurs, c'est le courrier des lecteurs, ça reflète les lecteurs. Et on met pas dans le courrier des lecteurs des choses parce qu'on a peur de le mettre. Simplement, nous, on n'a pas à vous dire si c'est bien ou pas de béatifier Pie XII. Moi, j'ai pas à vous dire. Ce que j'ai à dire, par contre, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, les problèmes que ça pose, etc. Mais voilà, c'est pour ça que le courrier des lecteurs, c'est un truc, et les journalistes, c'est autre chose.
Merci. Alors, La Croix, c'est bien défendu. Maintenant, les évêques français sont-ils restés trop discrets sur certains sujets?
Oui, Monsieur Grosser, j'apprécie aussi beaucoup tout ce que vous dites très souvent, mais je suis pas du tout d'accord là avec ce que vous venez de dire sur la position des évêques de France et comparativement aux évêques allemands. Les évêques allemands, effectivement, se sont exprimés de façon explicite. Les dépêches n'ont pas manqué. Les mêmes évêques sont allés rendre visite au Saint-Père et ont fait une sortie. On ne peut plus humble et on ne peut plus respectueuse du Saint-Père, au point que l'effet de leur communiqué antérieur a été jugé par beaucoup de communicants comme assez désastreux. Des évêques de France, je n'ai pas apporté jugement sur la conférence allemande, les évêques de France ont rédigé dès janvier un communiqué qui nous a valu, si vous saviez le nombre de flèches intégristes qui nous ont été envoyées, parce que nous avions notamment écrit dans ce communiqué que Vatican II ne doit pas être négociable. Cette petite phrase, rien que cette petite phrase, si vous saviez à quel point elle a coûté, et je vous passe l'ensemble des démarches accomplies par de nombreux évêques, peut-être plus discrètement que les évêques allemands, mais il n'est pas acceptable de dire que les évêques de France n'ont rien fait, ni envers Rome, ni envers les communautés locales. Ceci, je puis témoigner d'un conseil permanent. Ma mission m'appelle à être au conseil permanent tous les mois, écoutant de ce conseil permanent et à son service pour en être porte-parole. Je puis témoigner du courage ecclésial, pastoral, des évêques de France en ces circonstances. Quant à la question de la citation de Benoît XVI sur l'humanisme, il ne faut pas oublier que Paul VI dit quasiment la même chose dans une de ses références, dans Populorum. Évidemment, il n'est pas Benoît XVI. Alors comme il n'est pas Benoît XVI, on ne le fustige pas. Mais il faudrait aussi savoir redire cela pour regarder les générations des citations d'une façon explicite. Le même Benoît XVI qui fait ce choix d'un humanisme chrétien, on peut le lui contester évidemment, mais il est pape et il fait ce choix. Le même Benoît XVI, dans un autre paragraphe de Caritas in Veritate, a un appel à un discours et un dialogue interreligieux des hommes de bonne volonté en faveur du bien commun, extrêmement ouvert aux autres humanismes. Donc il faut dire, comme vient de dire Isabelle, et c'est vrai que c'est parfois compliqué avec Benoît XVI, ça je le concède bien, il ne faut pas lui faire dire qu'une seule chose, il en dit aussi d'autres. Et il n'est pas forcément celui qui l'a dit le premier. Quant aux deux autres questions, moi je dirais que j'approuve pleinement ce qui a été dit tout à l'heure de la chaleur ecclésiale qui doit se dire davantage. Et comme vous avez raison, madame, de dire à quel point on est en manque là-dessus. On le dit pas assez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et notre déficit de communication de ce côté-là nous coûte sans doute énormément. La froideur de nos communications, la façon avec laquelle nous restons trop souvent des cérébraux, nous coûte certainement un très grand déficit relationnel avec énormément de gens qui sont sensibles à cet aspect-là, et vous avez donné un excellent exemple. L'ecclésialité partagée, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je ne voulais pas dire que c'était le site de la conférence des évêques qui devait devenir le forum communicationnel de tous les croyants. C'est pas sa fonction. Quand on est en posture institutionnelle, on est au service des évêques en tant que tels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas tous les jours une très grande diversité d'opinions. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes loin d'être unanimes quant à leur propre posture et leurs propres opinions. Je puis en témoigner. Il n'est pas forcément facile tous les matins d'être le porte-parole d'une centaine d'hommes aussi différents les uns des autres. Et en même temps, c'est le côté passionnant de cette mission. Et donc, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que justement, si nous voulons éviter de polariser la communication de l'Église simplement au site dont j'ai la responsabilité, c'est dans une ecclésialité partagée, dans une ecclésiologie ouverte, aussi que ça doit se vivre. Autant nous avons, nous, à progresser énormément, et ça je le concède fortement, mais surtout, ne réduisons pas la communication de l'Église à ça, à ce que nous produisons. Et les tribunes de la Croix et de nombreux autres supports confessionnels, et Dieu sait si on a une riche presse, très riche, à laquelle moi je rends hommage, une presse confessionnelle très riche, très diverse, elles sont là aussi pour être expression de cette diversité.
Merci, on reprend une petite série de questions. Alors, il y avait, voilà, madame, et puis après devant, sur Audouin.
Bonjour. Oui. En fait, moi, je voulais simplement livrer un témoignage. Je considère que j'ai pas de culture religieuse, mais par contre, j'ai une vraie pratique religieuse. Mais en fait, c'est revenu par l'Inde. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est au cours d'un voyage en Inde où je suis allée à la messe et où véritablement la parole m'est apparue avec une clarté que je n'avais jamais eue jusqu'alors. Et c'est vraiment au niveau du cœur que la parole m'a été livrée. Et à partir de ce moment-là, j'ai véritablement souhaité renouer avec cette tradition chrétienne que j'ai depuis que je suis enfant. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi ici, en fait. Voilà. Donc ça, déjà, je voulais le dire, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Je trouve qu'il y a un vrai lieu ici d'écoute, de partage, mais avec une parole qui touche vraiment profondément. Mais c'est pas le cas partout. Très souvent, je trouve que je suis allée dans de nombreuses églises et j'ai assisté à de nombreux offices et très souvent, ça reste assez froid. et plutôt de l'ordre peut-être de l'intellectuel. Et il y a un lien qui se fait pas. Et je voulais quand même rappeler simplement le sens de religion, c'est religuérer, c'est vraiment relier. Donc je pense que c'est relier certainement l'homme avec les autres hommes qui l'entourent, bien sûr, avec un espace plus vaste et Dieu, mais aussi à l'intérieur de lui. Il doit y avoir un lien entre l'intellect et le cœur, sinon il y a quelque chose qui manque. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Devant, juste Jean-Paul Redouin, puis après je crois qu'il y aura une question par ici. Oui.
Merci. Je voulais vous interroger sur ce très bel outil de communication que pourrait être l'encyclique, la dernière encyclique de Benoît XVI. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le croit qui l'ont lu, qui l'ont même travaillé. C'est une réponse assez originale par rapport à beaucoup d'autres réponses que l'on peut lire qui sont assez plates. Et je suis très étonné que l'Église française, en tout cas, et peut-être même certains journaux, n'aient pas poussé un petit peu plus l'idée de travailler en petite communauté, d'utiliser ces fameux réseaux dont effectivement Mgr Potvin a parlé et qui existent, pour relayer tout ça. Bien entendu, on ne peut pas lire ça en une seule journée, mais pourquoi ne pas avoir essayé de permettre à beaucoup de personnes de s'approprier quelques parties? C'est un texte très ouvert. C'est un texte qui ne donne pas de réponse toute faite, que l'on peut manger par petits morceaux. Et ça pourrait être un formidable outil de communication, et je suis un petit peu sur ma faim, et je pense qu'on pourrait peut-être faire encore plus avec ce texte.
Merci Jean-Paul. Je crois qu'il y avait une question, voilà. Ah, oui, enfin, ça serait plutôt devant la question, voilà. Grégoire, si tu veux bien faire passer le micro plutôt devant. Devant, voilà, on va y arriver. C'est toujours un peu compliqué, mais on essaye de faire par ceux qui ont demandé en premier, voilà.
Bonjour, Mathieu Grandjean, je suis étudiant en école d'ingénieur. Je voulais simplement dire un peu la chose. L'année dernière, comme le cas de Kaleidoscope, il y a eu une initiative du service du Service national pour l'évangélisation des jeunes qui consistait à aller participer à la course croisière de l'EDEC en tant qu'étudiant. Et nombreux étudiants ont répondu à l'appel. Il y a trois bateaux, des étudiants en aumônerie. Et qui dit gros événement étudiant dit sponsoring. Il y avait 10 litres de soupe par équipage qui étaient distribués, des dentifrices, etc. Très vite, beaucoup d'équipages se sont rendus compte que c'était beaucoup trop pour eux. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus vers le stand d'Avance au large, qui était le nom du projet, en disant, c'est vous les cathos, vous devez savoir ce que vous pouvez en faire. Donc je pense qu'on a quand même encore une image d'église qui parle à la société, et je me demande si c'est pas quelque part par là qu'on devrait partir parfois pour réussir à parler aux gens. C'est qu'est-ce qu'on est avant tout pour eux, et où est-ce qu'on veut les emmener aussi. Et dernière chose aussi, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui est dit de la chaleur humaine, la froideur, moi je vois aussi au moment des crises, on a eu donc tout un déferlement médiatique autour des. Je prends surtout l'exemple du Brésil où on a eu donc l'excommunication de cette jeune fille et de sa mère pour son avortement alors qu'elle a été violée par son père. On a eu un déferlement médiatique autour de ça, on a eu un évêque qui a dit que l'avortement était un crime, on est revenu dessus, le préservatif, plein de choses. Et puis au milieu de ça, on a eu trois évêques dont on n'a quasiment pas parlé, qui sont arrivés sur un plateau télé pour dire l'Église catholique n'est pas là pour rajouter de la douleur à la douleur. Et ça, c'est passé complètement à côté, alors que c'était pour le coup un message qui me semblait intéressant. Pourquoi n'avoir pas relayé ça? Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage et question. Voilà, il y a plusieurs choses, peut-être sur l'encyclique.
Oui, c'est l'encyclique, vous exagérez un peu, parce que nous on a fait 3 semaines ensuite de séquences, qu'on appelle ça des séquences, sur la doctrine sociale de l'Église, pour justement amener les gens un peu à réfléchir sur toutes les thématiques de l'encyclique. Je suis quand même un peu d'accord pour dire que l'encyclique est pas très bien écrite et difficile à lire au début. et qu'il faut ensuite y replonger, etc. Bon, il y a eu aussi les textes de Jean-Paul II qui n'étaient pas très bien écrits, hein, mais c'est vrai que, honnêtement, ça a manqué de relecture, voilà, c'est tout. Sinon, sur les églises, enfin, sur la froideur des églises, etc., c'est vrai aussi que, et puis ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ecclésialité partagée, je pense que on communiquera bien à l'extérieur quand on communiquera aussi entre nous. Moi, je suis assez frappée de voir qu'on ne sait plus communiquer entre nous et que c'est de l'invective, de l'agression. Bon, donc là, il y a peut-être aussi à apprendre entre nous, à avoir un débat et à communiquer. Et puis, justement, de manière chaleureuse, tout en étant en vérité. Et puis, du coup, ça passera peut-être mieux à l'extérieur.
Père Potvin.
Oui, merci, Monsieur le Gouverneur, de souligner la qualité du texte de Benoît XVI. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est très juste. Même si c'est un texte difficilement communicable, je puis vous dire que nous y mettons une énergie folle, comme la croix. Je dois être rendu à ma 25e conférence sur le sujet. Bon, on intervient partout. On a fait une conférence de presse quasiment en plein 14 juillet, hein, pour essayer aussi de la faire valoir tout de suite, là, dès le moment de sa sortie. Mais la durée de vie d'une encyclique est longue aussi, hein. On peut lui donner encore tout un avenir, et il y a certainement des relais importants à lui donner. Les témoignages des jeunes dans la course croisière de l'EDEC sont un excellent exemple d'un phénomène catalyseur, d'une communication vécue dans l'aujourd'hui, dans la ponctualité d'une démarche. Ça, c'est un excellent exemple de quelque chose qui se joue dans le moment. Et avec tout ce qui a été très bien dit dans la relation de cet événement, de tout le relationnel, et ça, c'est très fort comme communication. Ce genre de communication, c'est une réussite, à la fois ad intra pour le groupe, dans ce qu'il est, et au niveau de l'extériorité par rapport à toute une opinion qui perçoit quelque chose d'un dynamisme, d'une présence fraternelle aux autres. Les paroles des évêques qui... On dit de ne pas ajouter de la douleur à la douleur. Nous avons travaillé vraiment à les répercuter. C'est tellement vrai que ces évêques ont bien souffert par des retours qui, envers eux, furent parfois bien, bien violents, d'avoir osé dire ces paroles évangéliques. Il ne fallait pas ajouter de la douleur à la douleur. Ils ont eux-mêmes, je puis témoigner, de souffrances grandes qui signifient bien que leurs paroles avaient été bien médiatisées.
Peut-être une dernière question, il en reste beaucoup. Père Jorens, voilà, le micro va venir jusqu'à vous, ici, devant, tout devant. Voilà, ça sera la question finale.
C'est pour dire sans doute ce qui semblera une banalité, c'est que je crois qu'il faut être très attentif à avoir un symbole fort. Par exemple, il me semble que la dernière phrase de l'encyclique, on peut écrire 2-3 articles pour essayer d'expliquer ce que le pape veut dire par cette phrase. Elle est proprement incommunicable à l'extérieur. La première fois que nous avons entendu qu'une encyclique était adressée à nos très chers frères, par-ci, par-là, et à tous les hommes de bonne volonté, eh bien ce seul mot était à lui seul une bonne nouvelle. Vous écoutez quelqu'un qui vous considère comme un individu... plausible en humanité. Et cette dernière phrase semble dire le contraire. Donc, je crois qu'il suffit de choses très simples.
Voilà. Merci beaucoup, Père Jorin. Ça sera le mot de la fin. Il y aurait encore beaucoup de questions, mais je crois que ce soir, je voudrais remercier en votre nom les intervenants, parce que ça nous donne, je crois, de ne pas désespérer quand même de notre rapport à la communication et la nécessité de faire vivre des lieux de communication, comme Sainte-Jeanne de Chantal le disait, vous nous l'avez rappelé, de communication joyeuse, franche et cordiale. Je crois qu'il y a pour nous des pistes pour continuer. Et professionnelle aussi, ajoute Isabelle.
Professionnelle, oui, tout à fait.
Un grand merci de votre présence.
Merci à vous.